Bonjour à vous Marie-Hélène Lafont.
Bonjour à vous Caroline Brouet.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes romancière, vous êtes professeure de lettres classiques, vous êtes l'auteur de 13 romans et fictions multi-récompensés. Vous avez obtenu, je ne donnerai que le dernier prix en date, le grand prix de la Société des gens de lettres pour l'ensemble de votre œuvre. Et vous publiez en cette rentrée « Histoire du fils » chez Buchet-Chastel. Un livre, figurez-vous, vous le savez peut-être ou peut-être pas, qui a été sélectionné parmi les 10 romans de la rentrée par France Culture et par l'Obs. Alors pourquoi donc ce livre a-t-il été sélectionné? Eh bien d'abord parce que c'est un très beau roman, mais je voudrais qu'on écoute ce qu'en dit un membre du jury qui a rejoint France Culture en cette rentrée, où quand un écrivain parle du livre d'un autre écrivain, voilà ce que ça donne.
J'ai choisi ce livre parce que d'abord c'est un style, c'est une façon d'écrire absolument merveilleuse, magnifique, une maîtrise extraordinairement mélodieuse et précise de la langue française, sans être ni empruntée, ni c'est toujours juste. Et puis parce que c'est une histoire de province, entre Aurillac et le Lot, un peu Paris, tout au long du XXe siècle, une histoire de dévoilement, une histoire de famille, avec des personnages assez extraordinairement bien décrits, un personnage de mère notamment, qui se refuse, on pourrait dire, à l'être, enfin, vraiment tout un ensemble de portraits qui sont pas justement une galerie, mais réellement des gens qui interagissent dans la beauté de cette langue absolument parfaite. C'est une autrice qu'on connaît justement pour à la fois la très grande beauté de son style et en même temps cette obsession pour ces territoires du Massif central et qu'elle dévoile, explore avec une langue extrêmement sensible des odeurs, des parfums, des plaisirs et des douleurs. Hein, c'est aussi, je pense, une autrice de la dureté, de la difficulté de la vie. Absolument, voilà. Extraordinaire.
C'était Mathias Sénard. Donc, au matin de France Culture, le 27 août dernier, Mathias Sénard, qui, je le disais, a rejoint France Culture en cette rentrée, puisqu'il produit désormais La Salle des Machines le dimanche à 17h. Marie-Hélène Lafont, très grande beauté du style, obsession pour les territoires, histoire de province et histoire de dévoilement d'une famille. Vous avez souri en entendant ce que disait Mathias Sénard.
Oui, j'ai souri aux beaux mots de province. Je sais que ce mot n'est pas en odeur de sainteté, n'est pas en cours.
On lui préfère les régions.
Oui, je sais, ou les territoires, mais j'en aime la grâce et l'évidence. Donc j'ai souri à ce mot-là. Et j'ai souri aussi à ce que vous avez souligné, un écrivain qui parle du chantier. Et ça, je trouve que c'est assez formidable d'avoir mis un écrivain à cet endroit-là pour parler des chantiers d'écriture.
Parce que vous êtes sans arrêt en chantier, vous. Vous avez toujours des chantiers sur le feu.
Oui, c'est ma façon d'être au monde. Je n'en ai pas d'autre.
Il disait également une autrice de la dureté, de la difficulté de la vie.
En tout cas, d'une forme d'âpreté, probablement, oui. Et je pense que c'est très, très lié au lieu, au milieu et à l'époque à laquelle j'ai commencé d'être au monde, où j'ai commencé de prendre conscience que j'étais au monde. C'était une fin d'un monde. Le monde dans lequel je grandissais n'en finissait pas de finir quand j'ai commencé à grandir et à prendre conscience que j'existais dans cet univers-là. Et je pense que cette âpreté s'origine probablement dans ces circonstances qui sont totalement contingentes. Et dans le type de paysage aussi, dans lequel j'ai commencé à ouvrir les yeux. Lequel type de paysage forcément façonne notre rapport au monde, quoi que nous en ayons.
Et imprègne l'ensemble de votre œuvre,
oui,
enfin Marie-Hélène Lafont.
De mon travail, oui.
De votre travail. Alors ce livre, hein, Histoire du fils, eh bien effectivement c'est l'histoire d'un fils. Le fils c'est André. Il est né à Figeac en 1924. Le père c'est Paul, mais Paul est absent. En tous les cas, la narratrice retrace son histoire beaucoup plus que le fils ne le fait. La mère c'est Gabrielle, mais André est élevé par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari, Léon. Et donc, André grandit au milieu de ses cousines et chaque été, il retrouve sa mère biologique qui vient passer ses vacances en famille. Puis quand il est grand, André découvre l'histoire de cette famille avec ses deux branches, les Lachalmes, paysans du Cantal, et les Léotis, paysans plus embourgeoisés du Lot. C'est donc une saga familiale qui galope d'avril 1908 avril 2008, de s'insérer dans le Lot en passant par Chantrelle et Aurillac jusqu'à Paris. On pourrait dire que c'est un retour aux sources en Auvergne, après Nos vies que vous aviez publié en 2017 et qui campait des personnages plutôt dans l'anonymat des villes. Alors qu'y a-t-il à la source de ce livre-là, Marie-Hélène Lafont?
À la source de ce livre-là, il y a ce qui existe constamment et dont nos vies sont saturées, c'est-à-dire ce que l'on appelle une histoire de famille. Toutes les familles ont une histoire. Absolument réelle. Je pars toujours du réel. Je ne sais, je crois rien inventer à partir de rien. Je ne sais pas d'ailleurs s'il existe des écrivains qui inventent à partir de rien. Ce serait une sacrée question. En ce qui me concerne, je suis constamment assaillie et bombardée par le réel. Et là, en l'occurrence, été 2012, j'ai été témoin d'une histoire de famille, de la révélation d'un secret de famille, dans une famille qui m'est très proche, une nébuleuse familiale dont je suis très proche depuis maintenant 4 décennies. Et immédiatement, je me suis sentie tellement empoignée par cette histoire qui se déroulait sous mes yeux, que j'ai pensé, moi, que ça ferait du texte, que je l'écrirais, mais on l'a pensé aussi autour de moi. C'est-à-dire, cette famille qui vivait cette histoire m'a prise à témoin. C'était une position assez paradoxale. C'est la première fois que ça m'arrivait de manière aussi directe. À tel point que j'ai rencontré, d'ailleurs, à 2 reprises, dans la vraie vie, si je puis dire, en 2012 et en 2013, l'homme qui est devenu la personne, qui est devenu le personnage d'André. Vous voyez, donc il y avait vraiment une sorte d'assignation, une empoignade et une collision avec le réel. Et il m'a fallu, comme toujours d'ailleurs, mais là peut-être plus encore que d'habitude, un long temps de décantation pour ensuite trouver la... tenter de trouver la forme juste pour déployer cette histoire d'un secret sur le papier.
Et sur l'origine donc de cette famille. Mmh. Ça veut dire que vous avez fait un travail de greffière ?
Oui, greffière à la nuance près que je ne prends jamais de notes. Donc, pas au sens technique du terme, si vous voulez, je ne suis pas rentrée chez moi en me disant « Ah, là je vais noter ceci, cela sur des carnets, je n'ai pas de carnet, je ne prends jamais de notes ». En revanche, il est probable que j'ai une sorte d'hyper... alors sensibilité, j'aime pas tellement ce mot-là, c'est pas le bon au bon endroit, mais en tout cas, je suis aux aguets, à l'affût, en action de chasse. Et donc, il y a une perméabilité, voilà. Il y a une perméabilité aux choses. Ensuite, là où je deviens greffière, c'est dans l'acte de décantation. Mais l'acte de décantation, c'est un acte passif. Je laisse faire le temps. Et au bout d'un certain temps, 2 ans, 3 ans, voilà, je me rends compte que ce qui s'est déposé à la surface de ma mémoire peut faire matière à écriture. C'est comme ça que se passe l'action de greffe.
Est-ce que les membres de cette famille qui vous avaient donc demandé d'écrire cette histoire, Marie-Hélène Lafont, l'ont lu? Votre livre.
Alors, elle est dédiée. Le dédicataire, Jacques, et Bernadette, feu son épouse, in memoriam, qui était présent au moment des faits et m'ont en quelque sorte amicalement assigné à cette résidence d'écriture, sont évidemment alorés, ont lu, etc. Enfin, Jacques a lu, Bernadette n'est plus. L'homme qui est devenu ce personnage, et qui est aujourd'hui un homme âgé, disons, a reçu le livre. Et je pense qu'il est en train de le lire. Et son fils aussi, ils l'ont reçu. Ceci dit, j'ai pris, comme dans tous mes précédents livres, ce que j'appelle des précautions extrêmes que l'on peut éventuellement juger, parce que c'est une sacrée
pour
question.
Pour éviter les effets de reconnaissance
voilà,
directe.
Voilà, que l'on peut juger peut-être superflu, mais pour moi c'est absolument essentiel, d'éviter les effets de reconnaissance directe. Donc de brouiller les pistes d'une manière extrêmement emberlificotée.
Oui, c'est effectivement assez emberlificotée. Et d'ailleurs, Marie-Hélène Lafont, c'est un livre qui a fait 176 pages à peu près, c'est-à-dire que c'est assez ramassé. Et pourtant, il s'étend sur un siècle, il couvre 3 régions françaises, il foisonne de personnages, il a la dimension d'une saga. Vous êtes habitué aux textes relativement courts. Mais là, vous le dites vous-même, il a fallu que ça décante, il a fallu sans doute élaguer. Vous n'étiez pas tenté par l'idée de vous lancer dans une série, un livre avec plusieurs épisodes ?
Non, non. Alors ça, pour des raisons qui m'échappent et que je ne chercherai pas forcément à éclaircir, ça m'est complètement étranger d'un point de vue esthétique, le déploiement, vous voyez. Et voire même l'étalement. Vous entendez bien la nuance hein, qui est derrière ce mot-là. Et la notion justement de série, d'épisode. J'aime beaucoup ce mot de saga, c'est un très beau mot. Mais je crois que je suis absolument incapable d'écrire une saga. Je ramasse. Je ramasse et justement le travail de décantation me sert à ça aussi. C'est-à-dire que ce que me fournit le réel est excessif. C'est trop, il y en a toujours trop. Et il faut donc que je laisse le temps faire son œuvre et que les motifs qui pour moi sont essentiels, qui font noyau, se détachent et à partir de ces motifs, je peux travailler. Et ces motifs, très vite, se sont détachés en tableaux. C'est un livre écrit en 12 tableaux. Et je ne voyais pas tellement comment combler les vides entre les tableaux pour faire 800 pages en 3 volumes. Non, c'est pas, j'ai presque envie de vous dire, c'est pas mon, le mot est grand, mais c'est pas mon esthétique. C'est pas mon pli d'être, pour le dire autrement.
Vous parlez de tableaux. Mmh. On pourrait effectivement qualifier ces tableaux d'instantanés. Oui. Il y a une dimension complètement visuelle. Oui. Dans votre livre. À un moment, André, dont vous racontez donc l'histoire, puisque vous racontez comment André, mal parti dans la vie parce que son père se construit, donne forme à sa vie, et on va y revenir. Mais à un moment, pendant la guerre, la deuxième, il rencontre Sylvia, une première femme qu'il rencontre, qui est une réfugiée, qu'il rencontre dans le maquis en 1940. Et vous décrivez Sylvia qui parlait souvent avec des images qui ne se comprenaient pas tout à fait du premier coup, mais qui se plantaient dans l'os et y restaient. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait qualifier votre écriture de la même façon. Vous avez, cette phrase que vous mettez dans la bouche d'André, donc de Sylvia, finalement, je pense qu'elle vous a dépassé, non ?
Et on ne regrette pas d'être venu, hein, parce que c'est... Vous mettez le doigt juste au bon endroit, voilà, je ne saurais mieux dire. Hein, c'est exactement comme ça que ça se passe. Il y a une image qui va faire motif, qui va se fixer et autour de laquelle la chair textuelle va pouvoir commencer à croître. Et donc c'est exactement ce processus-là en fait. Mais moi ça m'échappe totalement. Hein, il m'échappe totalement d'avoir écrit une phrase qui corresponde à ce point-là, à la façon dont se passe l'écriture du livre. Donc merci de l'avoir relevé. Tout est dit.
Marie-Hélène Lafoncé, l'histoire d'André, donc, de ce petit garçon devenu homme, il a 40 ans, il a 40 ans, à un moment du livre, parce que finalement ces 12 tableaux, on l'a pas dit, mais ces 12 tableaux sont des tableaux dictés par des titres de chapitres chronologiques, ce sont des dates, oui. Des dates réparties donc sur un siècle, mais dans un ordre totalement bouleversé. Quand vous disiez c'est alambiqué ou je sais plus quel est le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, c'est
emberlificoté,
c'est quand même encore plus joli qu'alambiqué. c'est vrai parce que on peut se dire on a du mal à s'y retrouver, mais pas du tout. Le lecteur n'est jamais perdu et c'est là toute l'architecture complexe de votre roman. Et donc à un moment, donc il a 40 ans, il est marié à Juliette, il devient père et c'est à ce moment précis qu'il décide d'aller voir ce père inconnu Paul qui est devenu avocat au barreau de Paris. Et vous écrivez: quand elle avait été avertie de la naissance à venir, elle avait seulement dit à André, on parle de la mère, à André, ça va changer des choses pour toi, du côté de ton père, tu verras. André n'avait pas relevé, mais il sentait, et Juliette, sa femme avec lui, que Gabrielle, cette mère, ne se trompait pas. Il faudrait faire face au fantôme, se tenir un jour devant lui, oser monter à l'assaut, crever le vieil abcès qui ne faisait pas mal, pas encore, mais ne se viderait pas seul. Un peu plus de 2 années avaient passé, André aurait bientôt 40 ans. C'est aussi un moment charnière, ce moment où on a 40 ans et où le passé nous rattrape et où donc on se tourne vers ses origines.
Oui, oui, et ce qui le rattrape, si le passé le rattrape, c'est parce qu'il va à son tour devenir père. La question de la filiation, de la transmission et de la façon dont ce qui s'est inscrit dans les générations passées nous traverse, quand bien même nous n'aurions pas conscience de nous inscrire dans cette filiation, est très très présente dans ce livre. Elle est présente dans tous mes livres, cette question, mais dans celui-là d'une façon lancinante, un peu obsessionnelle. Et André, pour le coup, parce qu'il est né de père inconnu, se situe d'une façon assez vertigineuse, hein. Face à cette question. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas le vertige. Donc il va l'empoigner, il va essayer de faire face à sa manière. Et notamment, je crois que le moment où lui-même s'inscrit dans la filiation en donnant naissance est un moment crucial. Mais ça, je crois que tous ceux qui ont donné naissance, hommes ou femmes, l'ont éprouvé.
Vous dites de père inconnu. Il se trouve que ce père, vous, vous en retracez l'histoire, puisqu'à travers André, c'est l'histoire de ses parents, de Paul, donc, et puis de Gabrielle. Gabrielle, elle a toujours caché l'existence du père, Paul. Elle, presque, on pourrait dire, elle lui a fait un enfant dans le dos. Il n'a jamais su qu'il avait un fils. On ne sait pas trop. En tous les cas, Paul et Gabrielle l'a croisé à l'infirmerie du lycée de garçons d'Aurillac au début des années 20. Cette rencontre entre Paul et Gabrielle, est-ce que Marie-Hélène Lafont, vous accepteriez de nous la lire, en tous les cas, de nous en lire un bout ?
Volontiers. Des générations de lycéens avaient redouté l'expéditive Madame Brégançon, duègne massive et sans âge, engoncée dans une blouse immaculée tendue sur ses formes affaissées et dissuasives. Nul interne n'eût songé, depuis l'âge de Pierre, à quémander auprès de l'insubmersible Madame Brégançon le moindre ersatz de sollicitude maternelle, voire féminine. On ne savait rien d'elle, on la brocardait à peine, et elle avait manifestement déserté la place sans bruit ni cérémonie. Mademoiselle G. Léoti lui succédait. Le nom, brodé sur la blouse, plut à Paul, même si l'initial l'inquiétait un peu. Georgette, Gisèle, Gertrude, Gilberte, Ginette, il pataugeait dans le marigot des prénoms, mais le nom avait de l'élan, de la tenue et vibrait d'une onction élégante qui faisait image. Fiévreux et languissant, il pensa à des navires, à des envols de grives aussi, au premier matin mordu d'automne, quand s'ouvre le faste temps de la chasse. Il devint attentif à la voix, grave, voilée, chaude, moirée, veloutée. Il épuisa ses adjectifs. Il s'appliquait, les yeux fermés, divaguant et ramassé dans sa peau. Granuleuse, peut-être, la voix de Mademoiselle Léoti, mais pas rocailleuse ni éraillée. Caressante. Non, pas caressante. Le contraire, presque le contraire. Ça vous passait dessus, vous passait au travers, vous rentrez dedans, vous touchez à l'intérieur, sous la peau. Le troisième jour, le mercredi, il s'arrêta sur « chaude et granuleuse » et sut exactement à quel point c'était aussi sexuel. Les jours suivants, il s'appliqua à faire durer. Janvier s'effilochait dans le gris. Son frère, seul visiteur autorisé, fut chargé de faire courir des bruits alarmants sur le caractère contagieux de son état afin de décourager les intrépides de la garde rapprochée qui fomentait une intrusion nocturne et clandestine. Paul voulait le huis clos. L'heure était grave. Sous l'uniforme blanc de Mademoiselle Léoti palpitait le Graal. Ça ferait l'affaire. Il lui donnait la trentaine. Le visage était austère et la bouche déjà pincée. Mais les oreilles parfaites, les yeux clairs, le cou souple, la nuque fraîche, les cheveux bruns ramassés en un chignon que l'on devinait onctueux sous le mince calot réglementaire. Tout annonçait des félicités certaines. Il ne s'étonna pas de cet instinct très sûr qui lui épargnait le doute et les atermoiements des débuts. Il se savait beau, il avait faim, il était jeune, et cette femme, qui ne l'était plus tout à fait, le voyait. Il le sentait, il l'avait senti dès le jeudi. Pendant la visite du soir, elle n'avait ni rougi, ni détourné le regard, au moment où, assis au bord du lit, guettant son approche, il s'était avancé vers elle, en pyjama bleu et en état de tumescence manifeste, sous le prétexte d'éprouver la fermeté retrouvée de son pas. Il chancelait, elle l'avait saisi aux épaules, ils étaient de même taille. Elle avait enfoncé en lui l'éclat cru de ses yeux clairs, elle avait dit, d'une voix presque rieuse, « Recouchez-vous, jeune homme, on est presque toujours bancal sur trois jambes. »
Merci pour cette lecture. Marie-Hélène Lafont, vous aimez lire à voix haute. Est-ce que vous lisez à voix haute quand vous écrivez ?
Oui. Oui, je lis à voix haute quand j'écris, je lis à voix haute quand je fais métier de professeur, je lis à voix haute.
En permanence.
Oui, c'est une respiration.
C'est quelque chose qui vous aide aussi à trouver la ponctuation, parce que parfois vous n'en mettez pas de la ponctuation. Parfois les adjectifs ou les mots se suivent sans ponctuation. On se dit c'est une coulée textuelle et c'est comme ça que ça doit être.
C'est comme ça. Je tente de trouver la juste mesure de la coulée textuelle et juste aimé être pianiste, moi qui ne le serai jamais. Ma façon à moi d'être en musique, c'est de respirer la phrase pour lui chercher le juste ton.
Allez, je prends ma respiration puisqu'il est 7h30 sur France Culture et qu'on vous retrouve d'ici 3 minutes, Marie-Hélène Lafon. Et notre invitée est à la fois romancière et professeure de lettres classiques, Marie-Hélène Lafon, qui publie un très beau roman. Marie-Hélène Lafon, votre livre s'appelle Histoire du Fils. Il a paru aux éditions Buchet-Chastel. Nous aussi, d'une certaine façon, comme le fait Mathias Sénard, nous plongeons aujourd'hui au cœur des mécanismes de votre écriture. Mais je voudrais faire un pas de côté pour vous poser une question par rapport à ce printemps que vous avez vécu, puisque je crois que ça faisait 40 ans que vous n'aviez pas passé autant de temps, voire tout un printemps, dans votre Cantal natal. Est-ce que vous avez redécouvert des saisons, des odeurs, des choses que vous aviez oubliées? Je vous pose cette question parce que justement dans votre écriture, vous accordez une grande attention aux sensations, aux couleurs, aux lumières, à la chaleur des chaussons tricotés par une mère, etc.
Il semblerait que je n'avais pas oublié, puisque justement, ces sensations fortes, puissantes, séminales, irradient constamment dans le travail d'écriture. Mais je les ai ravivées, les sensations en question. Notamment, c'est un hasard, c'est parce que les dates ont été ce qu'elles ont été, mais j'ai pu rester, pour la première fois depuis 40 ans, dans le Cantal, du 16 mars au 14 juin. 3 mois. Des arbres nus, lorsque je suis arrivée, au déferlement des roses, lorsque je suis partie. Et donc j'ai révisé le printemps, j'ai ravivé le printemps. Et j'ai même écrit quelque part, je sais exactement où, dans l'un de mes livres, qu'à 1000 mètres d'altitude, dans le Cézallier, il n'y avait pas de printemps, sauf 3 jours très éruptifs et l'éclatement des jonquilles. Mais en fait, c'est une erreur, il va falloir que je recommence tout. Parce que il y en a un, et je l'ai vécu me laissant totalement empoigné et traversé par justement ces lumières, par la neige. Il a neigé pendant ce printemps et ensuite il a fait 30 degrés et ensuite les iris et ensuite les pivoines et les chevreuils et les blaireaux, enfin la munificence ordinaire des choses. Je me suis laissée traverser et empoignée par tout ça. Et en même temps, je n'ai pu vivre tout ce temps dans le Cantal que parce que j'ai une excellente connexion Internet qui m'a permis de continuer à assurer la continuité pédagogique auprès de mes élèves du boulevard Arago.
Qui, à Paris,
bien sûr,
dans le 14e arrondissement, des élèves que vous avez retrouvés donc en cette rentrée.
Je les ai retrouvés.
Dans quelles conditions?
Hier, je les ai retrouvés.
Dans quel état déjà? Dans quelles conditions?
Alors, je les ai trouvés plutôt que retrouvés, puisque ceux que j'avais l'année dernière, qui étaient des élèves de 3e, je ne les verrai plus. J'en ai aperçu quelques-uns au mois de juin, par intermittence, masqués. Et j'ai trouvé hier, pour la première fois de ma vie, donc, des classes masquées. Des élèves qui sont d'abord et avant tout des regards, des élèves ramassés dans un regard. Et j'ai fait cours pour la première fois de ma vie, hier matin, pendant 4 heures, moi-même masquée. Et donc, sachant que les élèves ne voyaient que mes yeux et entendaient ma voix. J'ai lu un extrait de l'Odyssée, un extrait du Premier homme de Camus, et nous avons lu le début de L'étranger de Camus, masqués tous, avec nos voix ramassées dans nos masques.
Et qu'est-ce que ça a changé?
Ça a changé que nous sommes privés de visage. Il faut réinventer vraiment un rapport au corps de l'autre. Et déjà, la question du rapport au corps...
Ça redonne de l'importance au regard et aux yeux.
Oui, ça redonne de l'importance au regard, aux yeux. Mais vous avez raison, ça c'est très juste. Hein, mais je n'en ai pas fait le tour du tout de cette affaire-là, parce que ça a commencé hier, vous voyez. C'est pas la même chose du tout d'être dans un wagon de métro et de se rendre compte que nous sommes tous réduits à nos regards, ou bien d'être dans une salle de classe et d'avoir d'être dans le travail qui s'opère dans une salle de classe, travail d'apprentissage et de transmission, et de se rendre compte donc que nous sommes réduits au regard. Vous avez raison, il y a quelque chose de très très essentiel, mais il y a aussi quelque chose à inventer, et ça va se faire à tâtons. Hein. Ça va se faire à tâtons. Mais je préfère nettement ça à ce que nous avons vécu dans les mois de ce printemps dernier, à savoir en être réduit aux moyens numériques pour faire son travail, pour faire mon travail de professeur.
Être face aux élèves, être présent face à eux, ça change tout pour le coup.
Absolument fondamental. Absolument fondamental, quand bien même nous en serions réduits au regard. Mais bon, quelque chose commence là, hein. C'est de l'ordre de la mutation anthropologique. Hein.
Qu'il va falloir inventer. Vous qui dites que vous n'inventez jamais vos textes, mais que vous les réinventez. Je citais tout à l'heure, Marie-Hélène Lafont, l'exergue de Valère Novarina que vous avez choisi d'écrire pour Histoire du Fils. Je vais le redire. Le langage est notre sol, notre chair. Je me représente toujours le chantier comme un creux, une ouverture du sol. Et l'avancée d'un texte, sa progression, comme une marche en montagne. Qu'est-ce qui fait la dynamique d'un texte, la marche, la pulsation du corps,
la respiration, parce que le texte s'invente, s'écrit, se fabrique, se forge mot à mot, signe à signe, phrase à phrase, et chaque phrase est respirée par la lecture à voix haute, comme je le disais avant le journal. Donc, chaque phrase se marche, chaque phrase se respire, chaque phrase se mâche, chaque phrase passe par le corps, puisqu'elle monte des entrailles pour s'ériger dans l'air, et que c'est vraiment une affaire d'empoignade avec le corps. C'est extrêmement physique, cette affaire-là. Pour moi, en tout cas, hein, très physique. Il y a de l'instinct là-dedans. Il y a de l'empoignade, de l'étreinte, et ça se fait beaucoup à tâtons et à l'oreille. Donc, c'est une affaire très charnelle. Vraiment. L'exergue de Novarina, j'aime aussi beaucoup ce qu'elle dit, si vous voulez, le parallélisme entre le sol et la chair, voilà, la viande du monde, la matière du monde. Et l'écriture, pour moi, n'est rien d'autre qu'une immersion éperdue, à la fois vertigineuse et jubilatoire, dans la matière du monde. Et l'écriture est aussi la lecture.
Vous m'avez surprise d'ailleurs quand vous avez lu tout à l'heure Marie-Hélène Lafont, parce que vous avez fait une lecture assez scandée. Alors c'était très musical, mais c'était scandé, c'était presque haché, ponctué, alors qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, parfois, vos phrases n'ont pas de ponctuation. Donc, on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus fluide, comme une coulée, justement. Or, c'était scandé. Avec quelle musique en tête, enfin, disons, quelle musique accompagnerait ce texte, ou même, d'ailleurs, a accompagné ce texte?
Les musiques, et certaines, et au nom, en très petit nombre, essentiellement Bach, essentiellement.
Ça, je le savais pas, vous voyez.
Et les variations Goldberg essentiellement, par Glenn Gould essentiellement, je dois dire.
Écoutez langue, vous verrez.
Voilà. précède le moment où j'entre vraiment dans la salle des
machines. Dans la matière.
Oui, et dans la matière. Parce que quand j'y suis vraiment, je peux pas du tout ni entendre ni écouter de la musique, vous voyez. Parce que j'essaie de la faire. Moi qui ne sais pas lire une note, j'essaie de la faire.
Il y a des mots, des adjectifs que vous aimez particulièrement. En tous les cas, j'en ai relevé quelques-uns dans ce texte. Des adjectifs en P. Patelin. Paterne. Pimpant. Vous en avez conscience?
Non. Mais paterne, pimpant et patelin, ça fait tout de même partie des formidables et inépuisable richesse de la langue qui est la nôtre. Et là, je ne maîtrise que celle-là. Enfin, je tente en tout cas de la maîtriser. Et ça claque, ça danse. Il faut essayer juste de trouver la juste place. Alors, toujours une question de musique, la juste place.
Marie-Hélène Lafont, quand on est un peu paresseux et puis qu'on ne sait pas quel adjectif trouver, on dit souvent de votre écriture qu'elle est singulière. On pourrait dire c'est un peu court, jeune homme, elle est un peu plus loin. Mais on vous situe souvent dans la lignée des auteurs ancrés dans un territoire, Pierre Bergougnou, Pierre Michon d'ailleurs, à qui vous rendez un petit hommage, vous faites un clin d'œil dans ce livre. Récemment, un article d'AOC vous situe plus dans l'héritage de Colette et de Giono. Alors, où vous situez-vous? Vous, dans quelle veine littéraire vous placez-vous?
Du côté de ce que j'appelle les travailleurs du verbe, les aventuriers de la langue. Donc, j'ai dit à plusieurs reprises que la lecture de Michon ou de Pierre Bergoglio m'avait littéralement acculé à l'écriture, c'est-à-dire que j'avais osé entrer sur ce terrain-là et en chantier après les avoir lus et après avoir compris que des écrivains vivants étaient en train de faire ça, c'est-à-dire de donner à la langue cette forme dynamique, là, à partir d'un matériau qui m'était contigu, c'est-à-dire ce monde qui n'en finissait pas de finir dans les départements récurés et vidés par l'exode rural depuis un siècle. Donc les aventuriers du verbe, et il est bien évident que Giono, par exemple, est quelqu'un, c'est une écriture, l'écriture de Giono, qui a été profondément bouleversante pour moi et qui m'a longtemps intimidée. Tout comme la figure tutélaire absolue, à savoir Flaubert. Ça vous intimide longtemps. Vous lisez Un cœur simple et vous lisez Un roi sans divertissement et vous vous dites que tout a toujours déjà été fait et que c'est même pas la peine.
Et Aragon, Marie-Hélène Lafon?
Alors Aragon, c'est surtout pour moi bien plus que le romancier, le poète. Il se tient à l'épicentre du séisme textuel avec le collier des soirs sans fin.
Et alors, quand il est mis en musique par Ferré, ça donne Je t'aime tant, qui est votre choix musical pour terminer.
Mon sombre amour d'orange amère, ma chanson d'écluse et de vent. Mon quartier d'ombre, où vient rêvant mourir la mer. Mon beau mois d'août dont le ciel pleut, des étoiles sur les monts calmes. Ma songerie au mur de palme où l'air est bleu.
Merci Marie-Hélène Lafon. Je vous proposerais bien de rester avec nous pour écouter ce qui va suivre, à savoir La Fabrique médiatique. Alors, vous opinez du chef, mais on ne vous voit pas, donc c'est oui.
C'est oui.
Merci beaucoup. Il est 7h45 sur France Culture, et c'est donc La Fabrique médiatique.